L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Bien sûr, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas du tout la prétention d'être comme Jésus, loin de là. Mais comme chacun d'entre vous, mon grand désir est d'y arriver. Et on sait quel est le chemin qu'il faut suivre et c'est ce qu'on voit ensemble pour arriver à être comme Jésus. Père, je veux te remercier pour toutes ces personnes qui sont venues ce soir écouter ta parole. Et vraiment, Père, ma prière, c'est qu'ils ne repartent pas les mêmes, que quelque chose se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos cœurs. Je prie, Seigneur, que ce que je vais dire ce soir soit inspiré par ton esprit. Et au-delà des mots, au-delà des choses qu'on peut comprendre avec notre intelligence, je prie véritablement que cette parole descende dans nos cœurs et produise un changement réel dans nos vies, un changement radical dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, a la liberté d'agir librement et de toucher nos cœurs comme il te semble bon de le faire, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais juste vous faire un court récapitulatif de ce qu'on a parlé la dernière fois, de cette série de 5 messages qu'on va donner sur « Je veux être comme Jésus ». On a dit que le diable voulait, dans ces temps de la fin, qu'on détourne nos regards de la personne de Jésus, pour qu'on commence à fixer nos regards sur des hommes comme... j'avais pris l'exemple, vous vous souvenez du nom de ce pasteur, pasteur Bob. Voilà. Le diable veut une chose... c'est qu'on fixe nos yeux sur Pasteur Bob pour aller là où va Pasteur Bob. Pasteur Bob a dit, Pasteur Bob a fait ça, Pasteur Bob est comme ça. Mais ce que le Saint-Esprit veut, c'est qu'on fixe nos yeux sur Jésus et qu'on soit comme Jésus et qu'on aille à la dimension où Jésus est allé. Et nous devenons comme la personne sur qui nous fixons nos regards, mais nous n'irons pas plus loin qu'elle. C'est-à-dire, regardez votre vie, comme on en a parlé, regardez qui sont les modèles de votre vie et... si vous avez tendance à observer un homme, un frère, que peut-être que vous admirez, un auteur, un écrivain, un prédicateur ou quelqu'un d'autre, que ce soit chrétien ou pas, en réalité, si quelqu'un est votre modèle, vous allez aller là où est votre modèle, mais vous n'irez pas plus loin. Et si on ne choisit pas le Seigneur Jésus comme modèle suprême que Dieu nous a donné, on n'ira pas plus loin que Jésus. Et on n'ira pas plus loin que... la consécration du pasteur sur qui on fixe nos yeux, pas plus loin que son caractère, pas plus loin que ses œuvres. C'est le plan de Dieu, on a vu qu'on devienne vraiment comme Jésus, on a vu que c'était possible aussi de devenir comme Jésus. Et je vous ai donné ces exemples de personnes du monde, bien connues, Mère Teresa, Michael Jordan, Nelson Mandela, et tous ces gens qui en fait ont accompli des exploits dans la vie, des choses qui sont assez spectaculaires. Et s'ils ont accompli ces exploits, ce n'est pas parce que Dieu les a pris un matin, les a réveillés et leur a dit « bon ben voilà, fais ça » et puis agis comme ça. Et Dieu était derrière eux en train de les pousser. Mais on a vu que c'est parce qu'ils avaient à cœur une vision, ils avaient à cœur un objectif, un but et que par-dessus tout, ils préféraient tout perdre plutôt que ne pas voir cet objectif s'accomplir. Et on voit que ces gens ont payé un prix fort, un prix lourd dans leur vie de consécration, un prix extrême. Tout simplement parce qu'ils avaient une vision et ils voulaient absolument voir cette vision s'accomplir. Et bien souvent, on est là et on cherche des choses très, très spirituelles pour atteindre nos objectifs. Mais la première chose commence par notre volonté et le désir réel qu'on a, la détermination qu'on a. Et cette détermination, on n'a pas à prier pour l'avoir parce que Dieu nous demande nous-mêmes de l'avoir et de la posséder. Et j'ai pris cet exemple qui m'énerve de ces grands hommes aux yeux du monde qui ont percé, qui ont réussi, qui se sont donnés pour une tâche et qui ont accompli des exploits. Pourquoi ? Bah pour qu'en nous, ça nous challenge. On se dise, mais eux, sans Dieu, on fait ça. Pour une cause, se sont donnés, ont rejeté toutes sortes de tentations qu'ils avaient. Souvenez-vous de Nelson Mandela dans cette prison. On lui a proposé d'être libéré. Pendant toutes ces années, il est resté en prison. On l'a proposé, on a menacé sa femme, ses enfants. Mais il a préféré rester en prison plutôt que de sortir pour continuer à mener son combat pour l'apartheid, pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Et ça, c'est quelque chose qui est déposé dans votre cœur
à cause de la passion que vous avez pour la vision. Il y a des gens, je vous disais, une mère, par amour pour sa fille ou son fils, elle sacrifie tout parce qu'elle veut absolument voir sa fille ou son fils réussir dans tel domaine ou sortir de tel problème. Et vous voyez, c'est la vision que vous avez, cette passion que vous avez pour l'objectif que vous voulez atteindre qui va faire que vous allez vous déployer et que vous allez payer le prix qu'il faut pour entrer dans cette vision. Et je vous ai demandé de lever vos mains, je ne sais pas si vous en souvenez, combien de personnes pensaient pouvoir devenir comme Jésus, pensaient que c'était possible de pouvoir devenir comme Jésus. Vous avez tous levé la main et je vous ai redemandé combien de personnes pensaient que s'ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient aujourd'hui et à mener le style de vie qu'ils mènent aujourd'hui, les mêmes habitudes, vous pensez que vous y arriverez ? Évidemment, personne n'a levé la main. Et tout ça nous a fait comprendre une chose, c'est qu'on a besoin de changement, n'est-ce pas ? Dis à ton voisin qui est en train de s'endormir, tu as besoin de changement. Quelqu'un a dit la folie, c'est de croire qu'en faisant les mêmes choses, on obtiendra des résultats différents. La folie, c'est de croire qu'en faisant les mêmes choses, vous obtiendrez des résultats différents. Ça, c'est la folie. Pour obtenir des résultats différents, il faut faire des choses différentes, surtout si ça dure sur plusieurs années. Alors, on a vu ça et on a parlé de... c'était un message pour... La première partie était pour vous inspirer et vous dire en gros pourquoi aussi Dieu voulait qu'on soit comme Jésus. Et on l'a vu, il y avait plusieurs raisons. Parce que c'était sa volonté. On a vu les passages qui en parlaient. Il le désirait, que Jésus est le premier-né d'entre la nouvelle création, le premier-né d'entre les fils, et Dieu nous a prédestinés à être à l'image du premier-né, à l'image de Jésus. On a vu que c'était possible. On a vu que des hommes comme l'apôtre Paul l'étaient. Et aujourd'hui, dans la Bible été, on va voir un point important que j'avais préparé avant la réunion de dimanche. Excusez, je vais remettre ça. Un point important qu'on avait vu, c'était la nécessité que j'ai reçue avant la réunion de dimanche, c'est la nécessité de renoncer à sa vie. Et pour ceux qui étaient là dimanche, Pasteur Jérémy devait prêcher un message sur l'évangélisation et finalement le message a été avorté, reporté, annulé, remplacé par un autre message que le Saint-Esprit a inspiré, celui de renoncer à sa vie. Et aujourd'hui, on va parler principalement de ça et également de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, on peut aller ensemble dans Luc, au chapitre 14, au verset 25, à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Je vais lire dans la version second 21. Et ici, Jésus va parler de cette nécessité de renoncer à soi. Cette nécessité primordiale de renoncer à certaines choses qui nous retiennent, à certaines choses qui sont légitimes dans la vie, certaines choses qui sont importantes dans la vie. Et il va employer des mots qui sont vraiment durs, des mots qui sont tranchants, des mots qui sont fermes, des mots qui sont extrêmes, des mots qui sont radicaux. Et je vous avais dit, si quelqu'un trouvait un défaut en Jésus, j'allais lui faire un chèque de $1,000 à la sortie de la réunion. Et c'est évident que vous pouvez chercher, vous n'en trouverez pas parce que Jésus était parfait. Parfait en tout point, du début à la fin, la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Jusqu'à la croix, il n'a jamais péché, il était parfait. Et toutes ses décisions, toutes les décisions qu'il a prises, vous voyez, je vous avais dit, qu'il fallait que je commence pas à l'heure parce que il y avait des personnes qui allaient arriver de loin, de Montréal. Alors que celui qui m'a jugé se repent. Non, je plaisante. Vous savez, Jésus, on a vu que c'était sa volonté qu'on devienne comme lui. Et pour devenir comme lui, Jésus a appliqué ce qu'on appelle le discipolat. C'est-à-dire, moi je suis le maître. Jésus, il savait qu'il était le maître, l'enseignant, et il était arrivé à une certaine stature, et il a pris autour de lui les disciples, il a invité tout le monde entier, il a dit « Faites de toutes les nations des disciples, toutes les nations ». C'est-à-dire, où qu'on habite dans le monde, où qu'on soit, Dieu voulait que tous les hommes deviennent des disciples de Jésus. Et Jésus a dit encore que tout disciple accompli est semblable à son maître. Donc, dans la vision et la perspective de Dieu, dans la vision et la perspective de Jésus, il fallait former des disciples et que chaque personne qui a accepté le Seigneur Jésus devienne un disciple de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est que le commencement du processus où Dieu veut qu'on soit comme Jésus dans son caractère, dans sa consécration, dans ses œuvres. Et c'est vraiment l'objectif que Dieu va atteindre. Et pour atteindre cet objectif, Dieu va appeler des hommes à devenir ses disciples. Un disciple, c'est quoi ? C'est un disciple, c'est quelqu'un qui, à l'époque, dans le contexte de la Bible, se tiendra auprès du maître pour apprendre le savoir-faire du maître, pour apprendre la discipline du maître, pour devenir comme le maître et faire ce que le maître fait. Et ce qui est formidable, frères et sœurs, c'est que voyez Jésus, voyez ses standards, voyez le niveau de miracle qu'il menait, voyez le style de vie qu'il menait, le style de parole qu'il avait, le style de révélation qu'il avait, le style d'idée qu'il avait, le style de puissance qu'il avait, le style de caractère qu'il avait, la fidélité qu'il avait, l'amour qu'il avait, la patience qu'il avait, la douceur qu'il avait, la sainteté qu'il avait. En fait, toutes ces choses nous sont accessibles aujourd'hui. Mais il va falloir passer par le chemin du discipulat. Il va falloir se tenir aux pieds du maître, apprendre du maître un maximum, voir comment fait le maître, être dans l'intimité du maître pour devenir un disciple accompli, semblable au maître, n'est-ce pas ? Et là, Jésus, c'est ce qu'il avait instauré. Et beaucoup de gens venaient à Jésus pour être son disciple. Et beaucoup de personnes dans la foule voulaient vraiment devenir comme Jésus. Ils avaient appris que Jésus s'était choisi quelques disciples. Et Jésus a dit que celui qui vient à moi se charge de sa croix pour être mon disciple. Donc Jésus invitait tous les hommes, déjà dans son ministère sur terre, quand il était là pendant ses 3 années de 30 ans à 33 ans pendant son ministère, le Seigneur Jésus avait invité tous les hommes à devenir ses disciples. Et les gens suivaient Jésus pour devenir ses disciples. Certains étaient juste curieux et l'écoutaient, mais beaucoup de gens avaient la vision de devenir disciples de Jésus, tout comme les 12 apôtres. Et là, on va lire ensemble, au verset 25, il est écrit « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Voyez ce que Jésus dit. Là, il ne laisse aucune place à la négociation. Il va dire le père, la mère, la femme, les enfants, les frères, les sœurs, toute la famille proche. Jésus n'oublie personne dans la famille proche. Il dit, si quelqu'un préfère quelqu'un de sa famille à moi, autrement dit, si quelqu'un place les intérêts et fait passer une personne de sa famille avant moi, ou il va encore plus loin, après les membres de la famille, après les autres, les gens qui sont les plus proches, qui nous sont les plus chers, Jésus va être encore, il semblerait plus cruel, plus extrême, plus radical. Il va dire, et même sa propre vie, écoutez bien ce qu'il dit, il ne peut pas être mon disciple. Jésus ne va pas dire, il ne pourra peut-être pas être mon disciple. Il ne va pas dire, il te sera peut-être difficile d'être mon disciple, mais peut-être possible. Il va dire, il ne peut pas devenir être mon disciple. Après, il continue, il donne une explication. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix.
Et il conclut, il renchérit encore une fois pour être sûr que les gens ont bien compris dans cette foule nombreuse qui le suivait. Et vous savez, la Bible dit qu'une foule de plus de 5000 hommes suivait Jésus. 5000 hommes, alors si on prend les femmes, si on prend les enfants, ça fait peut-être une foule de plus de 15000 personnes. Imaginez, tous ces gens suivaient Jésus. Et Jésus, là, à ce moment-là, il va encore renchérir pour être sûr que tous ces gens dans la foule ont compris. Et il va dire, ainsi donc, écoutez bien, aucun de vous... à moins, et là, encore une fois, il ne laisse aucune place à la négociation. Jésus ne laisse aucune porte ouverte à « est-ce qu'il a vraiment dit ? Est-ce qu'il n'a pas vraiment dit ?» Il dit « aucun de vous ». Il n'y en a pas un, même celui qui a fait un bac plus 8. À l'époque, il n'y avait pas de bac, mais celui qui avait fait des études très poussées, celui qui était dans la auprès de l'école de Gamaliel, le plus grand théologien, qui qu'il soit, le plus grand pharisien, aucun de vous, celui qui a la plus grande connaissance théologique de Dieu, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Waouh ! C'est dur, n'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas ? Vous n'avez pas l'air de trouver ça dur ? Jésus ne laisse pas de place à la négociation. Jésus est radical. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Et là, je peux imaginer que Jésus était là, en train de marcher. Il avait sa vision, il avait sa perspective, il avait son objectif. Il savait que ces gens étaient là pour le suivre pour un long moment. Mais Jésus savait que, oui, ils veulent devenir comme moi. Oui, ils veulent apprendre de moi. Oui, ils veulent entamer une course qui sera longue avec moi. Ils veulent rentrer dans le chemin du discipulat avec moi, comme Pierre, comme Matthieu, comme Jacques, comme Jean, comme ces apôtres qui me suivent. Mais Jésus voyait dans l'esprit et il savait qu'au final, de cette foule innombrable, ne resterait dans la chambre haute en train de prier à la fin que 70 hommes. 70 personnes, alors qu'il y avait des dizaines de milliers qui le suivaient. Jésus savait que tous ces gens qui voulaient aspirer à suivre Jésus et à devenir comme Jésus, parmi eux, la plupart n'y arriveraient pas. Alors Jésus a voulu mettre les choses au clair dès le début et il leur a dit, écoutez, c'est très simple, vous avez une vision, vous voulez me suivre, vous voulez devenir mes disciples, mais sachez-le, vous n'y arriverez pas, à moins que vous renonciez à votre vie, à moins que vous ne fassiez passer, vous me fassiez passer avant votre femme, avant votre fils, avant vos amis, avant vos frères et avant vos sœurs. Et ça semble si cruel. Mais est-ce que la vérité est cruelle, frères et sœurs ? Est-ce que dire la vérité, c'est mauvais ? Jésus savait la vérité et il n'a pas voulu être dur. S'il y avait un autre moyen de devenir comme Jésus que d'être celui son disciple et de rester et de devenir disciple et être un disciple accompli, Jésus aurait dit les choses. Mais il a voulu parler avec vérité à ces gens. Il a voulu leur dire la vérité. Vous êtes en train de me suivre, mais sachez une chose, vous n'y arriverez pas. Vous êtes en train de mener un combat inutile. Vous êtes en train d'essayer de me suivre, mais vous allez renoncer. Vous allez abandonner la course. Vous allez faire marche arrière. Et Jésus ici voulait faire prendre conscience à ces gens que vraiment, à moins de renoncer à leur vie, ils n'y arriveraient pas. Jésus voulait une prise de conscience. Alors il s'est retourné, il a regardé tous ces gens et il s'est mis à leur dire ces mots qui sont difficiles. Et frères et sœurs, combien de fois avons-nous entendu des messages de consécration à l'Église ? Avons-nous été touchés à l'Église ? Combien de fois ? Et nous avons eu le cœur touché, nous avons dit « Oui Seigneur, je me donne tout entier à toi ». Combien de fois nous avons pleuré, nous avons plié nos genoux et nous avons commencé à prier un jour, deux jours, trois jours, à commencer à lire la Bible davantage, à commencer à sanctifier notre vie davantage. Et Dieu commençait à vraiment se rapprocher de nous et on commençait à s'attacher du Seigneur, au Seigneur. Et puis tout à coup, les choses de la vie nous ont rattrapés. On a commencé la course, mais on n'a pas pu l'achever. Et regardez votre vie aujourd'hui. Regardez tous ces moments d'élan de zèle que vous avez eu après avoir entendu un message qui vous a boosté, qui a touché notre cœur, qui a touché notre vie
Et puis finalement, on n'a pas persévéré. On a renoncé. On n'a pas persévéré dans la prière. On n'a pas persévéré dans l'attachement à Dieu. On n'a pas persévéré dans la méditation. On n'a pas persévéré dans les choses de l'esprit. On s'est relâché spirituellement. Et finalement, on a quitté le chemin du disciple. Et vous savez, il y avait un homme, un homme riche qui est venu vers Jésus. Et il a dit, Seigneur, je veux être ton disciple. Qu'est-ce qui me manque pour avoir la vie éternelle, etc. Jésus l'a dit, si tu veux être parfait, va vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus, ça semblait être dur ce qu'il a dit. Jésus n'avait pas de problème avec l'argent. Jésus était prospère, Jésus avait de l'argent, il nourrissait des hommes. Jésus allait partout, il voyageait, il dormait à l'hôtel. Bref, Jésus, c'était pas ça le problème. Mais Jésus savait, et il avait un plan pour la vie de cet homme. Il a dit, viens et suis-moi. Jésus a invité cet homme à devenir un disciple. Comme il a dit à Pierre, lâche tes filets, viens et suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus voulait rendre Pierre comme lui. Pierre avait cette vision d'être comme Jésus et de faire ce que Jésus faisait. Et cet homme riche est venu vers Jésus et la Bible dit que Jésus l'aima. Jésus aima cet homme. Cet homme avait un bon cœur. Mais au moment où Jésus a invité cet homme à le suivre, comme il a invité Pierre à le suivre, Pierre a suivi Jésus. Pierre a renoncé à sa famille pour suivre Jésus. Pierre a renoncé, je ne sais pas si l'apôtre Pierre avait des enfants. On en parle des enfants de Pierre, je pense pas. Hein. La Bible ne dit pas, mais Pierre avait une famille. Et à ce moment-là, Pierre, il était là. Et quand il fallait suivre Jésus, aller en Galilée, aller à Jérusalem, aller en Samarie, aller dans tous ces lieux, il n'a pas pris sa famille avec lui. Il a laissé ses choses derrière lui. Pierre a laissé son travail derrière lui. Pierre a dû laisser des choses. Parce qu'à l'époque, pour suivre Jésus, il fallait physiquement laisser énormément de choses derrière nous. Et si on ne renonçait pas à ces choses à l'époque, qu'est-ce qui allait se passer ? Pierre allait commencer à suivre Jésus, et puis, ma mère me manque, ma femme me manque, ma famille me manque, un autre maturité, mes enfants me manquent, ah, mon business que j'avais commencé dans la pêche me manque, toutes ces choses me manquent. Et là, ils commencent à suivre Jésus, mais à un moment donné, ils n'ont pas renoncé à leur vie, alors toutes ces choses auxquels ils n'ont pas renoncé, les rappellent en arrière. Ils se tenaient au pied de Jésus. Ils se tenaient à marcher auprès du maître. Ils se tenaient à apprendre au pied du maître. Mais comme ils n'ont pas renoncé à toutes ces choses dans leur cœur, ces choses les ont rappelées et ils ont fait marche arrière. Et tous ces gens suivaient Jésus. Mais Jésus savait, mais ils ne réalisent pas, ils n'y arriveront pas. Quand demain je vais aller en Galilée, quand demain je vais aller en Samarie, quand demain je vais aller à Jérusalem, comment ils vont faire ? Ils ont une famille, ils ont un travail. Et à moins qu'ils ne renoncent à ces choses, ils ne pourront pas physiquement nous suivre, n'est-ce pas ? Il fallait suivre Jésus physiquement. Et ce n'était pas simple, il fallait vraiment renoncer à sa vie et renoncer à ses proches pour suivre le Seigneur Jésus à l'époque où le Seigneur Jésus était sur terre, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, et pour revenir à l'histoire de cet homme riche avait quelque chose dans son cœur qui l'empêchait de se donner réellement à Jésus et de le suivre et de devenir un disciple de Jésus. J'ose croire que si la Bible dit que Jésus aima cet homme riche, j'ose croire que si la Bible dit que Jésus a dit à cet homme riche de le suivre pour devenir son disciple, peut-être que cet homme aurait pu devenir l'apôtre Paul. Peut-être que cet homme aurait pu devenir l'apôtre Pierre. Peut-être que cet homme aurait pu fonder des églises, sauver des âmes, délivrer des possédés, des démoniaques, guérir les malades, faire toutes sortes de bien pour le royaume de Dieu. Jésus l'avait invité, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qu'il fallait qu'il l'abandonne pour pouvoir suivre Jésus. Parce que s'il n'abandonnait pas ces choses, il ne pourrait pas être là où Jésus est et être là où son business est et ses biens sont. Alors Jésus, avant de lui dire « suis-moi », va pointer le doigt dans sa vie sur ce qui l'empêchait de le suivre. Et lui, son problème, c'était l'amour de l'argent. Lui, son problème, c'était l'amour du succès. Lui, son problème, c'était l'amour de ses biens. La Bible dit que c'était un homme très riche et qu'il avait de grands biens. Et quand cet homme a reçu l'invitation de Jésus de devenir son disciple, il avait dans sa main gauche, dans la balance à gauche, tous ses biens, toutes ses richesses, tous ses plaisirs. Lui ne savait pas qu'au ciel, après, il aurait des récompenses encore plus grandes, mais lui, il était très terre à terre, il aimait ces choses. Mais il avait aussi un cœur pour Dieu, et il voulait plus de Dieu. Et Jésus lui dit, viens. Et là, dans l'autre main, dans la main droite, dans la balance du côté droit, il avait l'invitation à être comme Jésus. La vision de Dieu pour sa vie et sa propre vision pour sa vie. Et cet homme a dû faire un choix. Et au moment où Jésus l'a invité, il était là. J'imagine que cet homme était comme paralysé. La peur de perdre ce qu'il avait parce que Jésus lui a dit « Va avant tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Ce n'est pas très intelligent de dire à quelqu'un de vendre tout ce qu'il a et de le donner aux pauvres parce qu'après, il n'a plus d'argent. Après, pratiquement, ce n'est pas très intelligent. Mais ce qui importait pour Jésus, c'était que cet homme le suive avant tout. Parce que pour Jésus, produire de l'argent, ce n'est pas un problème. Pour Jésus, vous faire prospérer, ce n'est pas un problème. Pour Jésus, le problème, c'est toutes ces choses que le diable met dans nos vies qui nous empêchent réellement de le suivre. Ok, physiquement, ça demandait à l'époque de suivre Jésus. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Heureusement que ce n'est plus le cas. Mais, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je l'ai expérimenté et vous l'avez expérimenté. La réalité et la vérité, c'est que ce que Jésus a dit à cet homme, à ces hommes qui étaient aussi extrêmes, aussi fermes, aussi radicaux, c'est encore la vérité aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Certes, physiquement, on n'a pas abandonné notre famille pour suivre Jésus. Certes, physiquement, on n'a pas renoncé à tout ce qu'on a et là où on habite pour suivre Jésus comme c'était à l'époque. Mais la réalité, c'est que tellement de fois où on veut se tenir au pied du maître, tellement de fois où on se dit « Non, mais je vais faire de ma vie une vie qui compte pour le royaume de Dieu. Je vais payer le prix qu'il faut pour jeûner, pour prier, pour chercher Dieu, pour grandir spirituellement, pour m'attacher à la piété, parce que la piété est utile à tout, mais l'exercice corporel utile à peu de choses. Je sais que si je veux aller loin avec Dieu, je n'ai pas d'autre choix que de me tenir au pied du maître. » Et on a entendu ces messages, comme vous disiez, à l'église, tellement de fois, ou ailleurs, dans des conférences, qui nous ont touchés. Et on a décidé d'avoir un élan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas persévéré? Pourquoi on n'a pas continué à prier 2 heures par jour? Pourquoi on n'a pas continué à lire la Bible comme on voulait? Pourquoi on n'a pas continué à évangéliser comme on voulait? Pourquoi on n'a pas continué à s'attacher au Seigneur comme on aurait dû continuer à s'attacher au Seigneur? Pour la même raison que Jésus a donnée dans ce passage, frères et sœurs. La même raison, c'est que nous n'avons pas renoncé à certaines choses qui nous retiennent et qui nous empêchent réellement de suivre Jésus. Vous voyez là ce que je veux dire? Vous voyez là où je veux en venir? Les mots de Jésus sont durs. Et Jésus va donner 2 exemples. La tour. Il dit, asseyez-vous, réfléchissez. Réalisez que vous n'avez pas de quoi finir la tour que vous avez commencée. Jésus est en train de leur dire, en fait, vous n'avez pas l'ingrédient essentiel qui vous permettra de vous tenir à mes côtés chaque jour de votre vie. Vous n'avez pas dans votre vie, il leur disait, les matériaux qu'il vous faut pour construire votre tour. Et alors que vous allez commencer à construire, il va vous manquer des matériaux et vous allez abandonner l'œuvre. Vous avez abandonné ce que vous avez commencé. C'est une chose d'avoir accepté Jésus comme son sauveur. C'est autre chose que de suivre Jésus et de devenir un disciple de Jésus pour devenir comme Jésus. Un homme de Dieu a dit, si réellement on veut être comme Jésus et suivre Jésus, il va falloir laisser derrière nous des choses qui nous coûtent cher. Ça nous coûte. Et Jésus savait. Il va prendre un autre exemple, celui du roi qui entre en guerre. Il va dire en gros, si le combat est perdu d'avance, vaut mieux pas vous engager. Et j'aimerais vous dire, aujourd'hui on parle d'une session, d'une série d'enseignements, être comme Jésus. Et la plupart d'entre vous, vous avez fait un institut biblique, des formations bibliques pour être comme Jésus. Mais en réalité, regardons sincèrement ce que ça a donné. On se réunit chaque semaine et on écoute des enseignements. C'est bien. Mais en réalité, on commence quelque chose à chaque fois. Et à chaque fois, c'est avorté dans la plupart des vies. Pas tout le monde, mais presque tout le monde. Parce qu'en réalité, l'ingrédient que Jésus nous demande d'avoir, c'est ce qu'il nous a dit dimanche, c'est de renoncer à toutes ces choses alors qu'on commence à s'attacher au Seigneur et à le suivre. Toutes ces choses qui viennent voler notre attachement au Seigneur. Et là,
Jésus va parler de la famille et du confort, de nos projets, de nos ambitions. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La famille, si on ne renonce pas dans notre cœur, bien sûr pas physiquement, mais si on ne renonce pas dans notre cœur à donner la première place à Dieu et non pas aux membres de notre famille, ce sera impossible d'être son disciple. Si on ne renonce pas à nos ambitions personnelles, égoïstes, qui ne viennent pas de Dieu, que Dieu ne nous a pas demandé de faire, comme qui nous demande de trop travailler, de trop nous donner pour une tâche, si ces choses passent avant Dieu, et si on ne renonce pas dans notre cœur, ici, Jésus ne demande pas d'arrêter ses études, il ne demande pas d'arrêter son travail, il ne demande pas de quitter sa famille ou de quitter sa femme, ou comme à l'époque où il fallait physiquement le suivre. Mais Jésus parle d'un renoncement dans notre cœur, d'un renoncement à l'intérieur de nous, de toutes ces choses qui nous empêchent. Et vous connaissez ces choses. Et certainement qu'elles se retrouvent dans ces mêmes dimensions que Jésus a parlé, la famille, le confort et notre propre vie. Parfois, on commence à s'attacher au Seigneur, on est touché, on commence à prier, à mener une vie de consécration, à s'attacher vraiment à la parole de Dieu, aller en profondeur chaque jour de notre vie, puis ça dure quelques jours, et puis tout d'un coup, bon bah, il y a la femme, ma femme qui est là, et puis bon bah, il faut qu'elle a envie de regarder un film, alors on va regarder un film. Puis le lendemain, le conjoint, on a envie de lui faire plaisir, on l'amène au cinéma. Puis l'après-lendemain, il y a les amis, on a envie de leur faire plaisir, alors on fait une soirée entre amis. Et puis l'après-lendemain, oh, faut encore regarder un film pour se détendre et se relaxer en famille. Et puis après, il y a les enfants, et les enfants nous demandent du temps, alors on va jouer avec les enfants, etc., etc., etc. Et en fait, il y a des clés. Jésus ne nous demande pas de renoncer physiquement à ces êtres chers qu'on aime. Mais il dit qu'on doit renoncer dans notre cœur à mettre ces personnes à la première place dans notre agenda et dans notre emploi du temps, au point qu'il ne reste plus rien pour Dieu. Et là, il va parler aussi de nos ambitions personnelles, de nos projets personnels, de toutes ces choses qu'on veut faire. Et il y a des gens dans ce monde, et on le sait, ils pensent à leur retraite, ils pensent à leur maison, et après avoir acheté leur maison, ils se battent pour acheter leur maison, ils travaillent fort, 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 ils achètent leur maison, ils achètent une voiture, puis deux voitures, puis trois voitures. Après, hop, c'est le temps de la piscine creusée, on va construire une piscine. Après, c'est le temps de changer de maison, et on prend une deuxième maison plus grande. Et leur vision, c'est leur maison et leurs ambitions. Au final, qu'est-ce qui se passe ? Jésus le sait. Et il sait qu'en fait, tant qu'on ne renonce pas à certaines choses dans notre cœur qui passent avant Dieu, on va commencer la course du discipolat. On va commencer à suivre Jésus de tout notre cœur. Et puis, ces choses auxquelles on n'a pas renoncé vont nous ramener en arrière, vont voler notre temps et vont nous empêcher d'être là où Dieu veut qu'on soit. Vous voyez ? Et là, c'est important, frères et sœurs. Le renoncement, a dit Jésus, est la seule solution pour devenir son disciple. Il a dit, il ne peut pas devenir son disciple. Et je l'ai expérimenté, et s'il y a quelqu'un d'entre vous ici qui peut me dire qu'il est possible d'être rempli du Saint-Esprit, si quelqu'un d'entre vous me dit que c'est possible de vivre des choses fortes dans l'esprit avec Dieu, d'avoir des visions, des révélations, comme Jésus, d'être disponible pour faire ce que Jésus fait, en passant 10 minutes par jour à prier et 5 minutes par semaine à lire sa Bible et 10 minutes par jour à parler des choses de Dieu, alors vraiment, je serais vraiment étonné parce que cela est impossible d'être son disciple à moins de renoncer à notre vie pour dégager du temps pour l'œuvre de Dieu et pour le Seigneur. Et Jésus le savait. Et je vais peut-être vous choquer, mais je vais être sincère et aussi radical que mon ami le pasteur Jérémy. Ceux qui le connaissent rigolent. Mais si vous êtes là, on est en train de parler de devenir comme Jésus, et que vous ne renoncez pas à votre vie, je suis sérieux, si là, vous ne renoncez pas à toutes ces choses qui volent votre temps et qui vous empêchent de vous attacher au Seigneur, sincèrement, ça ne sert à rien de venir.
parce que Jésus l'a dit, vous n'y arriverez pas. Vous aurez perdu votre temps en venant ici, ou du moins, vous l'aurez écouté, mais ça n'aura pas produit le résultat escompté. Parce que pour être comme Jésus et arriver où on doit arriver, et je me prêche à moi-même, frères et sœurs, on doit renoncer. Et c'est plus que puissant, c'est simple, mais c'est très puissant. Parce que si on ne renonce pas, on ne peut pas dégager du temps. Si on ne renonce pas à quelque chose, on ne peut pas s'attacher tout entier à autre chose. Et Jésus a dit qu'il voulait toute notre vie. Il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dites-moi comment c'est possible d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée si on n'a pas renoncé à toutes ces choses qui nous empêchent de nous attacher à lui. Alors oui, quelqu'un me dira, est-ce que je dois arrêter mon business ? Tu dois l'arrêter s'il t'empêche de passer du temps avec ton Dieu. Tu dois l'arrêter s'il t'empêche d'être un disciple de Jésus-Christ. Tu dois l'arrêter si ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de commencer ce business. Oui. Mais en réalité, plus que d'arrêter les choses, ce que Dieu veut, c'est qu'on renonce à donner la première place à ces choses dans notre cœur. On va le voir ensemble. Vous savez, Dieu a donné une parole prophétique à l'Église. Il a dit qu'une armée se lèverait. Je vais être sincère, aucune armée ne se lèvera à moins qu'on ne renonce. Aucune armée ne se lèvera. Personne ici, dans ce lieu, ne fera la différence dans les choses de l'esprit à moins qu'il ne renonce. Personne ne produira les résultats escomptés que Jésus produisait à moins qu'il ne renonce à certaines choses. C'est la réalité. Et si le Saint-Esprit nous dit qu'une armée de Dieu va se lever, ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans l'intimité, vont payer le prix dans la prière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se tenir dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, alors que d'autres dorment, vont être là en train de prier et de chercher Dieu, comme le Seigneur Jésus lui-même l'a fait. Mais à moins qu'on ne nous renonce à notre vie, ces choses sont impossibles. Le renoncement est plus que puissant parce que le renoncement libère le cœur pour que le cœur s'attache à Dieu. Le renoncement libère le temps pour que notre temps s'attache à Dieu. Le renoncement, ce n'est pas tirer un trait sur les êtres chers de notre vie. Le renoncement, ce n'est pas tirer un trait sur un confort matériel. Mais l'apôtre Paul va très bien expliquer ce que c'est. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Je vais le lire dans la version Summer. Animé du même esprit que le Seigneur Jésus, il va dire des paroles qui sont aussi dures et aussi radicales que le Seigneur Jésus. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29, « Je vous assure, frères, le temps est limité, le temps est court. Autrement dit, le Seigneur Jésus revient bientôt. Les âmes vont en enfer. Il est temps de réagir. » Je rajoute des parenthèses. Et il dit que désormais, ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Aïe, aïe, aïe. Ça semble dur, n'est-ce pas ? Que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Ici, Jésus parle du mariage. Ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Si vous passez par des épreuves, il n'y a pas le temps de pleurer. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Si vous avez des plaisirs dans la vie et que vous aimez, profitez de ces plaisirs. Soit vivez comme si vous ne vous réjouissez pas. Ceux qui achètent comme s'il ne possédait rien. Si vous vivez dans un confort, bah gloire à Dieu. Mais il ne dit pas quitter ce confort, mais il dit faites comme si vous ne possédez pas. Ne jouissez pas de ce confort. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Et ici, il dit la raison, la même raison que Jésus. Pour vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires du monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille
n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, par d'autres désirs que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, non pas pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous vous attachiez, vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Là encore, ces paroles semblent être dures. Ces paroles semblent être crues. Mais l'apôtre Paul dit que le temps est court. Les âmes vont en enfer. Les gens meurent. Les gens souffrent. Les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de nous. Et à moins que quelqu'un ne renonce pas à sa vie pour s'attacher au Seigneur sans partage, il ne pourra pas s'attacher au Seigneur et vivre les choses qu'il doit vivre. Et ici, l'apôtre Paul emploie le même genre de paroles que Jésus des années plus tard, animé par le même esprit, pour dire que, frères et sœurs, il est temps de réaliser que le temps est court. Il est temps de réaliser qu'il y a quelque chose de plus important que votre vie, que vos ambitions et que vos intérêts personnels, que votre confort et que les plaisirs de la vie. Et il va dire ces choses pour qu'on renonce et qu'on s'attache au Seigneur. On sait que dans la Bible, le mariage est une bénédiction, n'est-ce pas ? On le sait. Dieu nous a donné un conjoint. Mais quand Dieu a donné un conjoint, dans sa vision des choses, la première chose qu'il a dit concernant le conjoint, il a dit « faisons-lui une aide ». Une aide. Dieu avait une vision pour l'homme. Et en créant la femme, Dieu a créé d'abord, avant tout, une aide. C'est-à-dire un partenaire intime, un partenaire qui s'aimerait et qui poursuivrait la même vision et ils avanceraient ensemble, main dans la main, dans la même vision. L'apôtre Paul ici n'est pas en train de dire de divorcer, bien sûr que non. Il dit que celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas à l'époque fait mieux. Parce que sa fille va pouvoir s'attacher au Seigneur corps et esprit sans aucune distraction et sans partage. En fait, ce que l'apôtre Paul dit, c'est bien sûr de ne pas divorcer. Il dit, c'est bien sûr de ne pas déménager si vous vivez dans du confort. Et bien sûr, si vous jouissez de la vie, que vous profitez, que vous buvez du champagne, que vous jouez au golf tous les jours, c'est pas d'arrêter le champagne et de jouer au golf. Ce qu'il dit, en réalité, c'est pas de se priver de son conjoint. Ce qu'il dit, ce n'est pas quitter sa maison. Ce qu'il dit, c'est en réalité qu'on doit renoncer à mettre ces choses en priorité parce que le temps est venu d'être sans distraction pour s'attacher au Seigneur, pour faire avancer le royaume de Dieu et sauver des âmes. Voyez, c'est dans cette optique que le Seigneur Jésus a parlé. C'est dans cette optique de s'attacher à Dieu sans partage et à moins de renoncer, comme le Saint-Esprit l'a dit, on ne pourra pas. C'est une réalité. Alors, moi, j'ai expérimenté cette réalité avec mon épouse. Elle le sait, on en parle. On a nos défis. Mais je sais réellement ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et je sais à quel point le fait d'être marié peut être un grand frein à une vie de consécration. Parce que comme l'apôtre Paul dit, on a constamment envie de faire plaisir à son conjoint. On a constamment envie de se détendre ensemble et de regarder un film, d'aller au spa, d'aller jouer, d'aller s'amuser, d'aller faire sortir les enfants et de profiter. Mais envie après envie, après envie, après envie, après envie. Et finalement, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent et les années se succèdent. Et rien de changement au niveau spirituel dans notre vie parce qu'on n'a pas changé nos habitudes au point où on ne s'attache pas plus au Seigneur parce qu'on ne renonce pas à mettre ces choses au second plan dans notre vie pour mettre au premier plan le Seigneur Jésus. Alors comment c'est possible pour un couple, par exemple, d'être un disciple de Jésus et de vivre comme Jésus et d'être comme Jésus. Si l'apôtre Paul dit qu'on doit vivre comme des gens qui ne sont pas mariés, si Jésus dit que celui qui préfère sa femme ne peut pas être mon disciple, en réalité, il y a des agencements qu'on doit faire. Et j'ai réalisé ces choses encore plus ces derniers temps, qu'il y a des agencements qu'on doit faire dans le mariage pour que notre conjoint soit la bénédiction que Dieu a voulu au lieu d'être la malédiction pour notre destinée en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est impossible qu'on puisse devenir un disciple de Jésus-Christ lorsqu'on est marié, à moins que les deux ne se mettent réellement ensemble et avancent dans la même vision. L'histoire nous a montré que des couples mariés ont pu faire la différence, comme les Osborne. Des couples mariés, on pourrait en citer d'autres, comme les Swigarts,
ou autre. Ils ont vraiment fait la différence parce qu'ils se sont unis dans la même vision. Ils étaient partenaires et tous les deux étaient sur le chemin du discipulat. Mais qu'est-ce qu'il arrive si un homme se consacre et que l'autre et la femme ne se consacrent pas ou l'inverse ? Ce qui se passe, c'est que l'un veut s'attacher au Seigneur et l'autre tire dans l'autre sens. Alors, celui qui s'attache au Seigneur, soit il ne lâche pas et il continue, et finalement l'autre tombe en dépression et se sépare, et ça finit par des divorces. Ou sinon, celui qui s'attache au Seigneur, bah, parce que l'autre est constamment en train de regarder des films, en train de profiter de la vie, etc., bah, il se dit « ouais, bah, je dois passer du temps avec mon conjoint ». Donc, il se détache du Seigneur pour aller dans la direction de son conjoint. Et finalement, lui est en train de passer à côté de la vocation qu'il avait. En fait, en réalité, si un couple veut vraiment être comme Jésus et devenir le disciple que Jésus veut, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller ensemble. Et là, il faut avoir une vision commune. Il faut parler du Seigneur ensemble. Il faut partager ses expériences spirituelles. Il faut parler de la vision. Il faut prier ensemble. Il faut méditer ensemble. Il faut avancer ensemble. Il faut que les deux marchent ensemble, côte à côte, dans la même vision et dans le même but. Alors, oui, c'est possible de devenir un disciple de Jésus. L'autre chose qui est possible, c'est ce que la Bible appelle la sobriété. Et là, dans ce texte de Paul, Paul ne nous demande pas de physiquement renoncer à notre famille, physiquement de renoncer à notre argent et physiquement de renoncer. Sinon, il aurait fallu être malheureux et sortir de ce monde. Mais l'apôtre Paul nous demandait ici, vraiment, notez-le, d'être sobre. Et il l'a dit à Timothée. L'apôtre Paul nous demandait non pas d'être extrémiste, mais il demandait d'être sobre. Jésus ne demandait pas d'être extrémiste, mais il demandait d'être sobre. Et la sobriété de chaque jour, c'est de mettre Dieu à la première place. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Et ici, le mot grec pour « sobre », c'est « néphro », qui signifie « concentré en esprit », modéré, maîtrise de soi. Qu'est-ce que Paul veut dire ? Je prends encore le cas du mariage. On est là et on a pris un bon repas avec notre conjoint. On a fait une belle sortie avec notre conjoint. On a regardé un bon film avec notre conjoint. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais après l'avoir fait, il ne faut pas que le lendemain on refasse la même chose. Et que le surlendemain on refasse la même chose. Et que chaque jour de la semaine, finalement, on passe notre temps à profiter ensemble de la vie. Mais ce que l'apôtre Paul dit, c'est d'être sobre en toutes choses. Et concentré en esprit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mangez, mais vous mangez un peu et pas trop. Vous ne faites pas des excès. Et là, à un moment donné, vous retournez aux choses de l'esprit. Vous êtes constamment concentré sur les choses de l'esprit. Vous regardez un film, vous passez un bon moment, puis après, vous allez passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ça la sobriété. La sobriété, c'est ne pas aller trop loin. Le Seigneur Jésus nous demande de ne pas être extrémiste, mais il nous demande d'être sobre. Vous voyez la différence ? La sobriété en esprit, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous dites stop au plaisir. Vous dites stop à la famille, vous dites stop au travail. Et là, vous disiez, non, le Seigneur, c'est le temps pour les choses de l'esprit. C'est le temps pour les choses de l'esprit. Et la sobriété fait aussi que lorsque vous êtes en train de passer ce temps à profiter, etc., ben vous êtes aussi en connexion avec le Seigneur, en train de prier en esprit. Le mot signifie concentré en esprit, modéré et maîtrise de soi. Donc en fait, vous laissez un peu de place pour les plaisirs de l'âme, un peu de place pour les plaisirs du corps, mais à un moment donné, il faut être sobre. Et à moins de renoncer à ces choses dans notre cœur qui occupent la première place, c'est impossible d'être sobre. Frères et sœurs, il faut vraiment réaliser que la sobriété, c'est important. L'apôtre Paul ne nous demande pas d'être équilibré, mais sobre. Équilibré, on dit beaucoup, oui, il faut être équilibré, équilibré, mais équilibré, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Équilibré, ça veut dire quoi ? Vous avez une balance et le poids est égal des deux côtés. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour ta vie, c'est que Dieu pèse plus dans la balance et que le reste après Dieu. Il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Tu te donneras entièrement à lui. Et on parle, oui, il faut être équilibré, mais les gens équilibrés ne produisent pas grand-chose pour le royaume de Dieu. Tu ne peux pas passer 50% de ton temps à faire ci, 50% de cela, 50% de cela, 50% de cela, et il reste un petit peu pour Dieu. Tu équilibres un peu de tout. Si vraiment on veut atteindre cet objectif d'être comme Jésus, Si vraiment vous voulez que votre vie spirituelle fasse une grande différence, il ne va pas falloir être équilibré. Il va falloir être sobre, mais pas équilibré. Il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, c'est je donne autant à Dieu que je donne à ma femme, je donne autant à Dieu que je donne à mon travail, je donne autant à Dieu que je donne à mes projets. Non. Dieu doit avoir toute notre vie et on doit dégager du temps pour le reste. L'apôtre, je voulais vous parler de Catherine Kuhlmann. Vous connaissez sûrement l'histoire de cette femme. Cette femme a commencé à être utilisée par Dieu très jeune, alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Et elle a rencontré un beau jeune homme, un évangéliste, un homme de Dieu. Elle s'est mariée avec lui, elle a voulu lui faire plaisir et fonder un foyer, etc. Et elle était tellement passionnée par les choses de Dieu que pour plaire à son conjoint, elle s'est détournée de l'appel que Dieu avait pour sa vie. Et puis vers la fin de sa vie, elle était tellement malheureuse de n'avoir rien pu produire de plus que ce qu'elle a produit. Alors finalement, elle a choisi de faire son chemin à part. Elle n'a pas divorcé, elle a juste fait son chemin et elle avait ses raisons. Cet homme l'a brimée, cet homme l'a repoussée, cet homme l'empêchait de prêcher, cet homme l'empêchait de faire l'appel que Dieu lui demandait de faire. Et un jour, elle s'est retrouvée en face d'un chemin, Catherine Kuhlmann. Et là, elle a dit, je me souviens de l'heure, je me souviens de la minute, je me souviens de la seconde même où Catherine Kuhlmann est morte. Je me souviens de cet instant précis où ce jour, comme Annabelle le disait dimanche, ce jour si particulier où j'ai décidé de tout donner au Seigneur Jésus. Elle était née de nouveau, elle était sauvée, mais elle n'avait pas renoncé à certains désirs qui l'empêchaient de suivre Dieu et l'appel que Dieu avait pour sa vie. Et ce jour-là, elle a pris une décision dans son cœur, une ferme décision. Elle a dit, je meurs à mes ambitions pour choisir le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à la oindre et à l'utiliser dans les dernières années de sa vie. Et un jour, à Noël, elle a reçu une carte d'une petite fille qui écrivait et elle disait « Chère Catherine Kuhlmann, je paraphrase, vous m'avez offert le plus beau cadeau de Noël. J'allais mourir dans quelques jours et je suis venue à l'une de vos réunions. J'étais condamnée à mourir, c'était une jeune adolescente. Mais lorsque vous avez prié pour moi, j'ai été totalement guérie, le cancer a disparu et aujourd'hui je vis grâce à vous. » Et quand elle a lu cette carte, elle a eu des larmes qui ont coulé sur son visage. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à réaliser et elle a dit au Seigneur « Mais pourquoi ?» Pourquoi seulement dans les dernières années de ma vie? Pourquoi cette onction est venue seulement si puissante pour... Et au travers du ministère de Catherine Kuhlmann, des centaines de milliers de personnes ont été guéries. Des gens de tout le monde entier venaient. Et on pourrait rassembler des centaines de ministères. Ils n'accompliraient même pas un centième de ce que Catherine Kuhlmann a accompli dans les dernières années de sa vie. Elle n'avait même pas besoin de toucher les gens. Là où ils étaient, les gens étaient guéris, les malades étaient guéris, les âmes étaient sauvées, juste parce que Dieu était puissamment avec elle. Mais en fait, Dieu voulait le faire depuis le début. Mais dans sa vie, lorsqu'elle a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, il y avait des choses que je savais dans ton cœur qui t'empêchaient de te tenir à mes côtés. Et tu as dû y renoncer. Et au moment où Catherine Kuhlmann est morte à elle-même, elle a pu rentrer dans cette intimité profonde avec le Seigneur. Et son ministère de gloire a commencé. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas renoncé dès le début. Elle aurait pu faire des concessions dès le début et elle aurait vécu ces choses bien plus tôt, elle le savait. Mais il y avait un prix à payer, celui de sa vie et du renoncement aux choses qui l'empêchaient de suivre. Et elle dit, je me souviens de l'heure, je me souviens de la minute, je me souviens de la seconde. Un grand homme de Dieu dont je ne citerai pas le nom disait un jour dans une conférence, il disait en anglais, do you want what I have? Do you want my anointing? Il disait, est-ce que vous voulez mon onction? Est-ce que vous voulez vivre ce que je vis? Est-ce que vous voulez voir les aveugles voir et les sourds entendre et la paralytique marcher? Est-ce que vous le voulez? Et il disait ça à des jeunes, des dizaines de milliers de jeunes dans un stade. Et les gens disaient oui, oui, oui. Et il a dit, I don't like baseball, basketball, any ball. I only like the Holy Spirit. Il disait, je m'en fiche. Il disait, je ne me soucie pas du baseball, du basketball, de tous ces sports. Que ma passion, c'est Christ. Ma passion, c'est le Saint-Esprit. Alors que vous, vous jouez au basketball et que vous passez votre temps à vous construire des carrières et à vous amuser. Moi, je fléchis les genoux et je cherche Dieu et je m'attache à Dieu. Il dit, et c'est ça qui fait que je vis ce que je vis. C'est ce qu'il disait. Frères et sœurs, il y a un prix que cela va nous demander. Un prix. Un grand homme de Dieu revivaliste a dit un jour, le monde actuel n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme, une femme qui lui est entièrement consacré. Le monde actuel n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme et une femme qui lui est entièrement consacré. Alors oui, vous allez dire, oui, c'est dur. Oui, c'est radical. Oui, c'est extrême. Oui, ce que Michael dit, ça semble manquer d'équilibre. En fait, si vous pensez ça de ce que j'ai dit, alors pensez ça de ce que Jésus a dit. Parce que ce que j'ai dit, c'est ce que Jésus a dit. Et en réalité, il ne nous a pas demandé de quitter ceci, de quitter physiquement notre famille, de divorcer. Je ne parle pas de tout ça. Il nous a juste demandé de renoncer à toutes ces choses. Et ça peut être la famille dans ta vie. Ça peut être tes enfants dans ta vie. Je connais des gens, ils passent tout leur temps avec leurs enfants. Mais leur enfant n'a pas besoin qu'il passe tout ce temps avec eux. Il manque de sobriété pour dégager ce temps précieux pour s'attacher au Seigneur. La Bible dit de prendre soin des siens, c'est vrai. Et on aime nos enfants, on aime notre famille et on veut qu'on soit heureux. Mais si la famille passe avant Dieu dans ta vie, c'est ça qui t'empêche de t'attacher au Seigneur. Et si ton business passe avant Dieu dans ta vie, c'est ça qui t'empêche de t'attacher au Seigneur. Et si tes ambitions personnelles passent de réussite dans ta vie avant Dieu, c'est ça qui t'empêche de t'attacher au Seigneur. Et si le confort et le désir d'être bien, c'est ça qui compte pour toi, c'est ça qui t'empêche de t'attacher au Seigneur. Et vous connaissez votre vie, certains c'est des passions, des choses, mais qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui vous empêche réellement de suivre cette course auprès de Jésus ? Eh bien, c'est exactement cette chose à laquelle il faut renoncer dans votre cœur. Pas physiquement forcément, mais dans votre cœur, pour redonner à Dieu la première place.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.